La grande soirée football qui continue sur l'antenne d'Europe 1 et ce compte à rebours pour les quarts de finale et notamment France-Angleterre samedi à suivre à partir de 20h. Mais le premier, ce sera vendredi avec Argentine-Pays-Bas, 20h en tout cas pour le Prime. Juste avant, il y aura eu le match du Brésil ou encore le match du Maroc. Mais on a envie d'avoir les coups de cœur, les avis, le sentiment de Jacques Vendroux, notre grande voix, notre légende qui est avec nous et qui est en direct du Qatar. Bonsoir Jacques Vendroux.
Bonsoir à tous, bonsoir les amis.
On est ravis de vous retrouver, mon cher Jacques, toujours en compagnie de Thierry Bretagne et de Pauline Gamère, qui vous écoutent attentivement, qui vont réagir et rebondir sur vos propos. J'avais envie de vous inviter ce soir, et ce sera encore le cas demain, si vous êtes d'accord, si vous êtes disponible, pour avoir vos coups de cœur, la manière dont vous vivez cette Coupe du Monde et ce que vous avez retenu depuis le début de ce mondial, Jacques.
D'abord, à mon avis, le plus important, une magnifique organisation depuis le premier match entre le Qatar et l'Équateur. On a été sur plusieurs stades, on a été souvent à des conférences de presse, etc. On a beaucoup circulé dans Doha, on a été dans les stades, etc. C'est une remarquable organisation, il n'y a pas de faille. Et moi, la chose la plus importante à mes yeux, je ne parle pas de ce qui s'est passé avant, etc., sur les droits humains, etc., ça c'est un autre sujet. Moi, je parle du sport pour le sport, comme ça s'est très très bien déroulé quand j'étais en Chine pour les Jeux Olympiques ou encore dans d'autres pays comme la Russie, il y a 4 ans pour la Coupe du Monde en Russie, la France était championne du monde. Donc si vous voulez, il y a un élément qu'il faut absolument utiliser, c'est-à-dire que les problèmes que nous vivons en France et en Europe et même dans d'autres pays, c'est le problème des supporters. Ici, il n'y a pas un problème de supporters, mais pas un seul. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de bagarre. Et pourtant, il y avait 32 pays. 32 pays à des mentalités un peu différentes. Pourquoi ? Eh bien, la raison, elle est très simple. C'est parce que l'alcool a été supprimé dans les stades, en dehors des stades. Il n'y a pas d'alcool, c'est-à-dire que personne peut arriver au stade en état d'ébriété. Et ça, c'est le plus important. Et je pense que c'est une leçon qu'il faut absolument se servir pour la suite des grands événements footballistiques dans le monde entier.
C'est du bon sens, hein, Thierry Bretagne, ce que dit Jacques. Il a raison. Pour plein de raisons, mais surtout sur l'organisation. Il n'y a aucun incident. Il n'y a pas de hooligan. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de supporters qui vocifèrent ou qui s'affrontent.
Absolument. Et ça ne semble pas, mais Jacques va le confirmer, même si les stades ne sont pas aussi pleins qu'on nous les annonce, ça n'a pas l'air de nuire à l'ambiance. Il y a quand même une belle ambiance autour de ces équipes.
Honnêtement, dans tous les matchs que nous avons suivis ou que nous avons suivis en direct sur Europe, les stades ne sont pas pleins, c'est vrai. Mais à minima, il y a au moins 70 000 personnes quand le stade fait 80 000. Vous avez 45 000 quand le stade fait 60 000. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire, je ne vous dis pas que c'est plein à craquer, ça serait vous mentir. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il y a une bonne ambiance. À la limite, il y a trop d'ambiance. Si vous voulez, il y a trop de speakers, il y a trop de musique, il y a trop de chants, etc. avant le match. Et là, ce qui est un peu ennuyeux, entre guillemets, c'est que les supporters ne peuvent pas, je veux dire, s'extasier ou se laisser aller avant les matchs. Ils peuvent se laisser aller pendant les matchs. Là, c'est peut-être le bémol, mais je répète, et vous avez raison, Thierry, il se passe rien, il n'y a pas d'incident. Attention, tout le monde est sous contrôle, hein. Attention. Et puis en plus, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on parle de la police qatari. Évidemment qu'elle est présente, évidemment qu'il y a des voitures de police tous les 2 kilomètres, etc. Mais ils n'interviennent jamais. Et si jamais ils interviennent, c'est parce que il y a quelqu'un qui a fait une connerie sur la route, etc., qui roule trop vite, etc. Mais jamais à l'extérieur des stades ou dans l'enceinte des stades et dans le stade.
Très intéressant, Jacques. Et alors, l'aspect footballistique, on va y revenir, on va en parler. On a toute la Coupe du Monde pour l'évoquer. C'est aussi une belle Coupe du Monde avec de la fraîcheur, avec des surprises. Mais vous qui avez vécu 15 Coupes du Monde au total, celle-ci, vous la mettez dans un classement assez élevé dans votre hiérarchie, Jacques, ou pas ?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire que ce qui est un... Non, mais de toute façon, je veux dire, moi j'ai eu la chance de faire 15 Coupes du Monde, c'est vrai, mais chaque Coupe du Monde a son histoire. Je veux dire, au Mexique, en 70, quand vous allez quand vous allez participer aux demi-finales et la finale, bon, je veux dire, vous êtes l'homme le plus heureux du monde, vous êtes dans le stade Aztec de Mexico, vous mettez 4 heures pour arriver au stade, vous mettez 4 heures pour sortir du stade, mais c'est un autre contexte. Toute Coupe du Monde, je veux dire, a son histoire. soir. Et celle-là fait quand même vraiment partie des belles Coupes du Monde, comme la Coupe du Monde de 98. Et même si je dois choquer un certain nombre de personnes, la Coupe du Monde en Russie a été une remarquable organisation. Il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu d'histoire de ligane. Après, on peut, il y a des détails, évidemment. On peut toujours critiquer quelque chose, on va toujours trouver un truc à critiquer. Mais sur un plan relationnel avec les... Ici, il n'y a que 300 000 Qataris, il ne faut pas l'oublier. Hein. Le reste, c'est des étrangers. Hein. Et ils sont tous très, très gentils avec, d'abord, les étrangers. Et ils sont surtout très, très gentils avec les Français. Par exemple, le Qatar aime la France, pour des raisons diverses et sans doute compliquées sur le plan politique. Mais je veux dire, le Français, par exemple, est très apprécié ici. Voilà.
Le Français est très apprécié. Et c'est vrai que le Qatar a réussi à accueillir tout le monde plutôt dans de bonnes conditions. Le témoignage de Jacques est patent. Bien sûr, mais ce n'est pas le seul, Pauline Gamère. Moi, je me souviens qu'en 98, c'était l'organisation française, c'était une très belle Coupe du Monde. Mais il y avait eu des incidents, à Marseille notamment, avec des supporters anglais. Là, je suis persuadé que samedi, pour le match entre France et Angleterre, tout se passera bien, Pauline.
Oui, enfin, c'est peut-être des pays aussi où on n'a pas forcément envie de connaître les prisons. Pourquoi pas ? Pour être allé aussi en Russie, on croisait énormément de policiers, l'ambiance, elle n'était pas... extrêmement festive non plus dans les rues. Alors après, moi, je ne suis pas allée au Qatar, je n'y assiste pas, donc c'est compliqué de parler de l'expérience qu'on peut vivre là-bas. Par contre, excusez-moi, en France, j'ai beaucoup de mal à me rappeler tous les jours qu'on est en train de vivre une Coupe du Monde. On nous a quand même coupé l'émotion de la Coupe du Monde d'une manière terrible. On est beaucoup plus dans les décorations de Noël que dans l'émotion de la Coupe du Monde.
Mais c'est peut-être dû à l'hiver,
ça. Mais c'est peut-être dû à l'hiver. Mais pourquoi on l'a joué en hiver ?
Oui, pour le Qatar, pour faire plaisir.
Pour le Qatar, donc on en revient là. Les bars sont vides, il n'y a pas du tout cette ambiance. Bien sûr que c'est lié à l'hiver, parce qu'on adore, quand on sort du travail, aller prendre l'apéro.
Pas tous les bars, si je puis me permettre, Pauline.
Mais beaucoup.
Et notamment les supporters, la communauté marocaine, hier, dans les bars qu'ils ont investis, je peux vous dire que c'était une folie, c'était dingue.
Mais on trouvera toujours des exceptions, mais ça n'a quand même rien à voir avec une Coupe du Monde habituelle.
D'accord.
Non, mais ce n'est pas des exceptions. Je suis désolé, ce n'est pas des exceptions, Pauline. Je vous signale, je me permets d'intervenir dans ce débat. Sur tous les matchs de l'équipe de France à Paris, je le sais parce que j'ai de nombreux amis, les bars étaient pleins. Pour l'histoire du Maroc hier soir, les bars étaient pleins. Il ne faut pas dire ça. Il faut simplement dire que peut-être qu'il y a une motivation qui est différente parce qu'on regarde plus les matchs à la télévision, etc., que c'est moins festif dans certains lieux. Mais en règle générale... vous parlez de Doha. Moi, hier, j'ai passé la journée dans Doha, pratiquement toute la journée. Il y avait des Marocains partout, déguisés avec le maillot du Maroc. Et je peux vous dire que le centre de Doha était extrêmement festif. Alors évidemment, comme les Argentins, comme les Mexicains, comme les Français, il n'y a pas beaucoup de Français. Mais il y a certains pays qui font venir plein de gens. Mais le côté festif, nous, très honnêtement, ici, on ne s'en rend pas compte. Franchement, on ne s'en rend pas compte.
Thierry Bretagne, que voulez-vous ajouter sur ce thème-là ?
Ajoutons que les gens... Vous savez, on disait dans le temps que les gens votaient avec leurs pieds. Bah là, ils votent pour la Coupe du Monde, pas avec leurs pieds, mais sur les canapés. Les indices d'audience de la télévision sont excellents. Excellents pour l'équipe de France en particulier. Ce qui fait que l'hibernation... plus le mouvement idéologique de « on ne met pas de fan zone », etc. Ça tombe bien, on va se geler les bonbons.
C'est bon pour les audiences, c'est bon pour la pub aussi dans les médias.
Oui, absolument.
Bien sûr.
Mais évidemment, ce n'est pas bon pour la bière, parce que le copain de Jacques Vendroux, M. Budweiser, peut-être qu'il est moins content que Jacques.
Bah, Jacques connaît beaucoup de monde, mais je ne suis pas certain qu'il connaisse ce susnommé Budweiser.
Monsieur Budweiser,
d'accord. Il fait partie de votre carnet d'adresse, celui-là, ou pas? Non, je ne crois pas.
Non, je ne connais pas.
Je ne me
bouleverse pas, en tous les cas.
Non, mais j'en suis persuadé. Jacques, il nous reste une petite minute pour évoquer peut-être un coup de cœur également sur une équipe ou sur un joueur. On aura le temps demain encore d'en reparler. Mais là, spontanément, quel joueur ou quelle équipe vous a marqué particulièrement ?
Écoutez, franchement, par rapport au début de la Coupe du Monde, moi, ce que j'ai aimé profondément, c'est la qualification du Maroc, parce qu'elle est inattendue. On pouvait faire tous les pronostics qu'on veut, elle est inattendue. Et vous avez vu Lionel, cette image, mais rarissime. Le roi Mohamed VI qui descend dans Rabat avec le maillot de la sélection marocaine, mais ça n'a jamais existé avec Mohamed V, avec Hassan II, et ça a existé avec Mohamed VI. C'est extraordinaire. C'est la première fois que le roi descend dans la rue avec ses disciples, si on peut parler comme ça, pour fêter la victoire du Maroc. Ça, c'est fantastique.
Ça, c'est ce que vous retenez. Et c'est vrai que les Marocains vont peut-être nous faire rêver encore. Ce sera contre le Portugal. Ce sera l'un des quarts de finale de ce week-end. Merci, mon cher Jacques. À très vite sur l'antenne d'Europe 1.